franceinter.fr.
Le journal Bruno Duvic.
Bonjour à tous. Au sommaire aujourd'hui, la grande blessure de la barrière de corail, hécatombe catastrophique de ces coraux. Selon une nouvelle étude, en cause une fois de plus le réchauffement climatique. Et si la maladie d'Alzheimer était une illusion, une construction sociale? C'est la thèse choc et polémique d'un livre publié aujourd'hui. Deux auteurs sérieux, le chef du service gériatrie de l'hôpital Pompidou, Olivier Saint-Jean, et le journaliste spécialisé dans la question médicale, Éric Favreau. À les entendre, la maladie d'Alzheimer n'existe pas vraiment, c'est simplement l'autre nom de la vieillesse. Ce sera le rendez-vous santé, comme chaque jeudi, avec Daniel Messager. Jeudi de grève interprofessionnelle en France, la CGT est solidaire qui organise cette journée vise la convergence des luttes. Nous irons à Marseille. À la SNCF, il y a de la rupture dans l'air. L'intersyndicale suspend le dialogue avec la ministre des Transports. La lutte des cheminots est la nôtre. Des intellectuels, des artistes apportent leur soutien aux grévistes dans l'humanité. Invité de ce journal, l'avocat Antoine Comte. Les projets d'Emmanuel Macron pour l'Europe, l'Allemagne en veut de moins en moins. Le président français en parle en ce moment même avec Angela Merkel à Berlin. L'État d'Israël commémore sa naissance, 70 ans. Nous replongerons dans les archives. À Cuba, c'est 60 ans de castrisme qui se termine. Au Pays Basque, ETA s'apprête à annoncer sa dissolution. Encore des chiffres et réjouissants. Les températures. Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
C'est l'été aujourd'hui, Élodie.
Et oui, de la chaleur, souvent 8 à 12 degrés au-dessus des moyennes de saison, avec 20 degrés à Brest, 25 à Toulouse et Marseille, 26 à Rouen, 28 à Paris, Colmar, Bordeaux, 29 à Grenoble. Tout ça sous le soleil. Mmh. Juste quelques nuages bas sur le nord de la Bretagne, possible dans l'après-midi. Peut-être une petite averse sur l'ouest des Pyrénées. Et puis surtout, attention au risque d'avalanche qui reste élevé en montagne.
Un chiffre encore. Richard Gasquet, 500e victoire de sa carrière, peut-être aujourd'hui à Monte-Carlo, c'est du tennis. Et puis, les très bons chiffres de France Inter. Vous êtes plus de 6 millions à nous écouter chaque jour. France Inter en tête sur tous les carrefours d'information, notamment ce journal de 13h. Ce sont les dernières enquêtes d'audience. France Inter, première matinale de France aussi, ce qui est crucial en radio. Vous êtes comme tous les jours les bienvenus dans le journal de 13h. Les scientifiques publiés par la revue Nature n'ont pas l'habitude de raconter n'importe quoi. Et bien là, ils parlent d'hécatombe catastrophique. Année 2016, une vague de chaleur, un tiers des coraux de cet ensemble capital au large de l'Australie a disparu. Le chiffre est impressionnant, Rosalie Lafarge.
Oui, en fait, quand la température de l'eau augmente, le corail stresse. Et quand le corail stresse, il expulse les algues dont il a besoin pour survivre. Ça le fait d'abord blanchir.
Si le stress dure trop longtemps, et ce qui a été le cas en 2016, le corail, au bout d'un certain temps, sans cette source de nourriture apportée par les algues, meurt.
Jean-Pierre Gattuso est océanographe et directeur de recherche au CNRS.
On disait jusqu'à présent qu'après un épisode de blanchissement, on retrouvait un récif qui était à peu près similaire à ce qui était antérieurement, au bout de 15 ans environ. Ce que montre l'étude, c'est qu'en fait, ces coraux sont progressivement remplacés par d'autres coraux, mais qui sont loin de jouer le même rôle. Ce rôle de création des habitats et qui permet d'abriter des poissons et une faune absolument très diversifiée.
De nouveaux coraux moins utiles, finalement, qui peuvent abriter moins d'espèces, qui les protègent moins des prédateurs. C'est tout l'écosystème qui est chamboulé, dégradé. Et le grand responsable, c'est le réchauffement.
Sans aucun doute, il n'y a absolument aucun doute sur le plan scientifique. Et cette étude, en fait, ne prend pas en compte un autre phénomène qui, dans quelques décennies, va probablement affecter beaucoup les récifs coralliens. C'est l'augmentation de l'acidité de l'eau. C'est le phénomène qu'on appelle l'acidification des océans.
Et ça empêche les coraux de fabriquer leur squelette à une vitesse normale. Les scientifiques appellent donc à protéger les coraux survivants et à limiter nos émissions de gaz à effet de serre. En tout cas, si on veut continuer à profiter des 30% d'espèces abritées par les récifs, mais aussi de tous les services pour la pêche ou la protection des côtes que nous rend le corail.
La Terre s'abîme et dans l'espace, la NASA ouvre un peu plus grand ses yeux pour trouver des planètes qui ressemblent à la nôtre. L'agence américaine a lancé cette nuit un nouveau télescope. Il s'appelle TESS, bijou de technologie à 337 millions d'euros. 4 petites caméras, 10 centimètres de diamètre, mais particulièrement perçantes. Et si la maladie d'Alzheimer était un leurre, une construction sociale, si ces malades souffraient tout simplement de vieillesse? C'est la thèse très audacieuse d'un livre qui sort aujourd'hui même. Bonjour Daniel Messager.
Bonjour.
Ce livre, il est au cœur de notre rendez-vous santé du jeudi. Il faut rappeler ce qu'est la maladie d'Alzheimer.
C'est carrément un des plus grands fléaux depuis une cinquantaine d'années et pour celle à venir, avec 900 000 personnes touchées en France aujourd'hui et dont les projections sont particulièrement inquiétantes.
Et selon les auteurs, elle n'existerait pas. Qui sont ces auteurs d'ailleurs?
Le professeur Olivier Saint-Jean, qui dirige le service de gériatrie de l'hôpital Pompidou à Paris, donc qui sait a priori de quoi il parle en matière de vieillissement, et Éric Favreau, grand reporter à Libération, sur les questions de santé, dont on peut dire qu'il a quand même une certaine expérience. Et selon eux, donc, il s'agirait d'une construction sociale et pas d'une maladie. Au banc des accusés, d'abord les médicaments dont on sait malheureusement qu'ils sont inefficaces.
Alors écoutons Éric Favreau.
Aujourd'hui, dans cette médecine qui n'a de sens que quand elle est biologique, pharmacologique, il faut des médicaments. Et là, très vite, l'industrie pharmaceutique va s'y mettre. D'un côté, il y a l'arrivée des médicaments et il y a de l'autre un discours extrêmement catastrophique sur cette maladie.
On va se rendre compte quand même que ces médicaments sont inefficaces, voire dangereux.
Alors au début, les effets secondaires, y compris gravissimes, ne sont pas pris très au sérieux. Mais il y a toujours cette idée que ça améliore un petit peu, ça va retarder l'évolution. Mais il y a une telle demande sociale, tout le monde participe à cette construction sociale, surtout que ça arrive à la fin des années 90, à un moment donné où une nouvelle discipline s'est installée, qui est la gériatrie, s'occuper des vieux, s'occuper médicalement des vieux.
Mais alors vous en arrivez à dire que en fait la maladie d'Alzheimer n'existe pas, que c'est la vieillesse et que ce n'est pas une maladie.
On dit que en grande partie, c'est ce qu'on appelle bêtement ou simplement le vieillissement. Et le vieillissement, il est physique, mais il est aussi cérébral.
Au fond, Daniel, selon les auteurs, il s'agit d'accompagner en fait la vieillesse.
Oui, et de prendre en charge le déclin cognitif.
On écoute à nouveau Éric Favreau à votre micro.
Tout à fait. Toutes les grandes études qui ont été publiées en septembre dernier, par exemple dans le Lancet, montrent que le nombre de cas diminue en valeur absolue. Plus une société est éduquée, cultivée, etc., plus le nombre de cas diminue.
Il y a quand même des personnes qui sont atteintes jeunes. Qu'est-ce que vous dites pour celle-ci?
Le vieillissement est une moyenne et qu'il peut y avoir des formes très précoces et des formes très tardives.
Donc ces personnes dont on dit qu'elles n'ont plus leur tête, qui ne trouvent plus leur chemin, c'est de la sénilité?
C'est du vieillissement, pour la plupart. On ne retire pas tout à fait la possibilité qu'il peut y avoir certaines maladies dégénératives du cerveau, etc. Mais que ce grand fourre-tout qui est devenu la maladie d'Alzheimer est pour nous un grand leurre.
Le grand leurre, c'est donc le titre de ce livre qui sort aujourd'hui aux éditions Michalon, écrit par le professeur de médecine Olivier Saint-Jean et le journaliste Éric Favreau. Merci Daniel Messager. Il y a ceux qui rêvent de convergence des luttes, CGT, Solidaires, les deux syndicats qui appellent aujourd'hui à une grève interprofessionnelle et à des manifestations. Et puis il y a le président de la République qui ne croit pas à ce qu'il appelle lui une coagulation des mécontentements. Est-ce que l'un des deux camps va marquer des points aujourd'hui? La CGT et le syndicat Solidaire annoncent 133 défilés dans toute la France. Ils sont servis par le beau temps. Le défilé de Marseille, c'était ce matin. Reportage Isabelle Dore.
Après son galop d'essai samedi dernier avec près de 8000 personnes dans les rues, la CGT confirme sa position de leader dans ce mouvement à Marseille. En tête de cortège, les responsables politiques et syndicaux, Olivier Matteux pour la CGT, qui draine le gros des troupes.
Le mot d'ordre, c'est qu'il faut les arrêter. Ces gens-là, ce sont des destructeurs. On a tous les exemples. On a l'Angleterre avec un recul de plusieurs décennies. On a ce qu'ils sont en train de faire à la Grèce. C'est le même attelage qui impose toutes ces régressions en Grèce. On a les mêmes, avec les mêmes objectifs, les mêmes recettes. Il faut se mobiliser.
Adieu Macron, adieu Macron, adieu.
Nous, adieu Macron, on est là pour montrer que la lutte, il ne faut jamais la lâcher. Convergence de lutte, c'est aussi la convergence des colères, c'est la convergence des combats. C'est l'unité à travers les combats et à travers un seul but.
Grands absents de cette journée d'action, la CFDT et FO. Pourtant, un petit groupe de cheminots marche sous la bannière de Force Ouvrière.
Au niveau confédération, il n'y a pas le mot d'ordre pour appeler, mais nous, au niveau cheminots, on appelle et on est là, et on lâche rien, on sera présent jusqu'au bout.
Aux côtés des cheminots, les étudiants, puis derrière les postiers, les hospitaliers, les profs, les dockers, les salariés des entreprises de l'étang de Berre et bien d'autres, tous unis dans le rejet de la politique gouvernementale. Marseille, Isabelle Dore, France Inter.
Les échos et chiffres d'autres manifestations données par nos confrères de France Bleu et France 3. Un millier de manifestants à Avignon, à peu près pareil à Bayonne. Entre 3 et 4 000 personnes à Caen, près de 2 000 personnes à Clermont, idem à Rouen. Et plus de 4 000 manifestants à Tours, à Paris. Le trajet du défilé, c'est Montparnasse, place d'Italie. Départ dans moins d'une heure à 14 heures. Invité de ce journal, l'avocat Antoine Comte. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous êtes avec d'autres intellectuels, artistes, citoyens dans les colonnes de l'Humanité ce matin avec ce titre général à la une, le combat des cheminots est le nôtre. Parmi les gens qu'on peut lire dans l'Huma, il y a Étienne Balibar, Laurent Binet, Didier Daninx et bien d'autres. Pourquoi la lutte des cheminots est-elle la nôtre, Antoine Comte?
Parce que je trouve personnellement qu'ils sont en train de défendre des principes qui vraiment sont importants. Mmh. Je suis toujours étonné que dans ce pays, on ait du retard sur ce qui se fait à l'étranger. On a vu la privatisation des chemins de fer en Angleterre. On a vu que ça aboutit à des catastrophes au point que les Anglais renationalisent en partie, et en particulier, ils renationalisent tout ce qui est la structure.
Alors, comme vous savez, il y a débat, ça n'a pas marché du tout en Angleterre, ça a plutôt bien marché en Allemagne. Selon l'exemple qu'on prend, on trouve des exemples positifs ou négatifs. Hein.
Permettez-moi de penser qu'en Allemagne, ils ont plus le sens de la négociation avec les syndicats que nous ne l'avons du côté de Thatcher quand elle a nationalisé les chemins de fer en Angleterre, et du côté français, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de négociation.
Alors justement, c'est un des points de votre intervention dans l'UMA. Vous avez des termes assez durs vis-à-vis du gouvernement, de l'actuel pouvoir. Vous trouvez qu'il n'est vraiment pas à l'écoute, qu'il y a un problème de sens de la négociation, voire de la démocratie dans ce pouvoir.
En effet, je trouve qu'il y a un vrai problème de démocratie. Je pense que la présidence jupitérienne, comme on l'a dit du côté de Monsieur Macron, devient une espèce de bonapartisme. Mmh. Bonapartisme, c'est-à-dire centralisation des décisions. On prend les décisions sans se préoccuper de ce que peuvent considérer comme important les corps intermédiaires. Et ça va de pair. Peut-être, c'est un parallèle que je fais et que je ne devrais pas faire, mais ça va de pair avec la conception du Parlement qui semble résulter des réformes qui sont en cours, au point que M. Larcher, président du Sénat, s'y oppose vivement. De quoi s'agit-il ? Le Parlement, on veut un petit peu le brider. On veut limiter la possibilité pour les députés de déposer des amendements. On veut surtout intervenir dans l'ordre du jour du Parlement. C'est, pour le parlementarisme et la démocratie, un point central. Donc la démocratie, c'est le Parlement et qui contrôle l'exécutif, et l'exécutif qui peut éventuellement obtenir des votes, des lois, mais qui doivent être discutées. Ici, il n'y a pas tout ça.
De ce point de vue-là, syndicats, parlementaires et autres corps intermédiaires, même combat, pas assez d'écoute, pas assez de respect, vous trouvez ?
Pas assez d'écoute. Je pense qu'il y a, je le dis comme je le pense, hein, je pense qu'il y a un véritable mépris pour toutes les personnes qui sont en lutte aujourd'hui et qui défendent des choses qui me paraissent tout à fait justifiées. Quand on veut avoir un service public du chemin de fer, il faut se donner les moyens, d'une part, de mettre à jour toutes les structures pour qu'il n'y ait pas d'accidents. Et ça, l'État l'a fait dans le passé. Il y a eu beaucoup moins d'accidents qu'en Angleterre, par exemple, c'est important de le noter. Beaucoup moins de morts, même s'il y a eu des choses dramatiques. Parce que ça ne peut pas être un zéro risque. Et en même temps, il faut que les gens puissent avoir des conditions de travail correctes. Et de ce point de vue, moi, il y a des choses qui me choquent horriblement dans le discours politique que j'entends aujourd'hui.
Par exemple,
les privilégiés.
Oui.
Enfin, personne ne dit que les militaires qui prennent leur retraite à 42 ans, je crois, ou 43 ans, parce qu'ils ont, après 25 ans d'activité, il me semble, personne ne dit qu'ils sont privilégiés. Mmh. L'État a choisi, et la société a choisi, un certain nombre de cas où on considère que les personnels doivent être un peu favorisé par rapport à leur travail, uniquement favorisé par rapport à leur travail.
On reprend dans un instant, Antoine Comte. Je voudrais qu'on donne les dernières informations justement concernant le conflit à la SNCF. La quatrième période de grève s'achève entre ce soir et demain matin. Un TGV sur 3, 2 trains régionaux sur 5. Le taux de participation aujourd'hui à la grève est de près de 23%. Les 2/3 des conducteurs sont en grève. Mais le climat entre syndicats et gouvernement s'est dégradé depuis hier. Matignon annonçait hier qu'il n'y aurait plus d'embauche sous statut de cheminot dès le 1er janvier 2020. Dans un an et demi, ça peut sembler loin, mais les syndicats s'attendaient à une date encore plus lointaine. Et l'intersyndicale, ça c'est une des informations de la fin de matinée, suspend les discussions avec la ministre des Transports, Elisabeth Borne, et on appelle au Premier ministre. Écoutons Roger Dillenseger de l'UNSA au micro de Maxime Debs.
On nous annonce des dates sans même qu'on nous en parle. J'ai exprimé très violemment mon agacement hier soir, autant du côté du ministère que du côté de la direction de l'entreprise. C'est juste anormal qu'on soit informé dans cette période quand même un peu rugueuse via les médias. Il y a des choix de posture unilatérale, il faut que ceux qui prennent ces postures-là les assument. Donc aujourd'hui, de manière unitaire avec les autres organisations syndicales, on a franchi le pas et on a fait le choix de dire on s'adresse au Premier ministre parce que aujourd'hui, au niveau du ministère des Transports, force est de constater que ni négociation ni concertation. Un déficit de confiance au ministère des Transports, c'est gravissime.
Et parmi les points chauds ce matin, la gare de Lille-Flandre, circulation des trains fortement perturbée, blocage des voies par des cheminots et des passagers qui sont descendus des trains en amont des quais, c'était un peu la pagaille. Vous croyez à la convergence des luttes, Antoine Comte ?
Je la souhaite. Je souhaite, parce que je pense qu'il faut que l'ensemble des gens soient entendus. Et là, on voit, par exemple, dans l'intervention que vous avez citée tout à l'heure, un dirigeant syndical de l'UNSA dire qu'il n'y a plus de négociation. Il n'y en a jamais eu de négociation, en réalité. Donc, il y a un certain nombre de questions qui sont posées par la société française, par différentes catégories professionnelles.
Mais où est le fil rouge entre les cheminots, les étudiants dans les facs, Notre-Dame-des-Landes, les EHPAD? Où est le fil rouge?
Le modèle social français. Mmh. Le modèle social français, il est exceptionnel. Il faut le protéger, il faut le garder. Il faut que l'État s'engage dans des redistributions d'impôts pour que les services publics marchent. Enfin, je veux dire, c'est un modèle social que tout le monde nous envie. Mmh. Je vois des gens qui viennent du quatre coins du monde, y compris des États-Unis, qui nous disent, enfin, votre système de santé, il est exceptionnel. Eh bien, ça a un coût.
Antoine Comte, question aussi à l'avocat qui a beaucoup été confronté à la radicalité. Notre-Dame-des-Landes, il y avait un projet d'aéroport. Ce projet a été abandonné. Il y a des discussions des propositions qui ont été faites aux manifestants pour des projets agricoles. Ça se passe pas bien. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de choquant? Voilà, vous manifestiez contre l'aéroport, il est abandonné, mais vous êtes toujours là. Qu'en dites-vous?
C'est vrai que c'est une affaire compliquée, Notre-Dame-des-Landes. Ce que je crois qui émerge dans ce pays aujourd'hui, ce sont des gens qui ne veulent pas de modification d'un État qui était antérieur, peut-être qu'il était suranné par certains côtés, mais qui veulent garder la terre, qui veulent garder les exploitations agricoles, qui veulent garder une région qui, si j'ai bien compris, est une région riche
et ça
en diversité
tout.
Biologique. Non, je ne pense pas que ça justifie tout, mais je pense que de l'autre côté, il y a un manque total de prise de décision. Un jour on dit oui, un jour on dit non. On attend, on laisse la situation se pourrir. Je pense que le dialogue social manque dans ce pays.
Et je précise que des zadistes ont déversé devant la préfecture de Nantes des centaines de restes de grenades lacrymo façon de dénoncer la violence.
Montrer comment le dialogue se passe ici.
Et ils estiment que
dans cette région en particulier.
270 zadistes ont été blessés. Là encore, question à l'avocat qui a été confronté à plein de situations différentes. Les facs, un combat parfaitement légitime, mais souvent des étudiants qui bloquent les facs alors qu'ils sont ultra minoritaires par rapport à ceux qui voudraient étudier. Qu'en dites-vous?
Je pense qu'il faut impliquer la démocratie dans les assemblées générales des étudiants, de la même manière qu'ailleurs. Et là-dessus, je ne connais pas suffisamment la question pour savoir le détail, mais je pense qu'il faut intégrer les règles, par exemple, que nous avons dans le code électoral. Un homme, une voix. On peut avoir éventuellement deux personnes qu'on représente en plus et dont on a la possibilité qu'on vote pour elles, mais pas plus. Il ne faut pas qu'il y ait des conditions de vote qui ne soient pas conformes au système démocratique. Je pense que c'est très important.
Merci beaucoup Antoine Comte d'être venu dans les studios France Inter répondre à nos questions ce matin.
C'est moi qui vous remercie.
À propos des universités, 15 étudiants et un enseignant ont passé la nuit à l'université d'Avignon malgré la fermeture administrative. Sciences Po Rennes est fermée ce jeudi, un amphi est occupé. Concernant Tolbiac, c'est au préfet de choisir si la police doit intervenir. C'est ce que dit le tribunal administratif.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvic.
Nous allons à l'étranger où beaucoup de pages d'histoire se tournent cette semaine. À Cuba, c'est la fin de l'ère Castro. Raoul, remplacé cet après-midi par Miguel Díaz-Canel à la tête du pays. Il reste numéro un du Parti communiste, vraiment pas loin. En Corée, le président du Sud redit sa volonté de signer un traité de paix avec le Nord. Et puis, Israël fête cette semaine ses 70 ans. Avec le correspondant de France Inter à Jérusalem, Étienne Monin, retour en 48 et 70 ans d'Israël en 1 minute 05.
C'est David Ben-Gourion, figure centrale toujours en Israël, qui lit dans le musée de Tel Aviv la déclaration d'indépendance qui fonde l'État d'Israël. On est 6 mois après la partition de la Palestine votée à l'ONU. Les nations arabes entrent en guerre avec ce nouvel État. Le premier conflit redessine le territoire et crée les premiers réfugiés palestiniens qui sont aujourd'hui autour de 5 millions. À l'époque, il y a un peu plus d'un demi-million de juifs dans la région. Les infrastructures et l'économie se développent à marche forcée, portées par un juif nouveau, jeune, énergique et conquérant. L'État d'Israël est dessiné par une élite ashkénaze socialiste qui régnera sur le pays jusqu'au début des années 70. Aujourd'hui, Israël est un pays libéral. Les indicateurs économiques sont excellents malgré les inégalités. Les élites se sont diversifiées, mais les tensions internes sont fortes et l'enracinement de l'Iran en Syrie créent de nouvelles menaces.
Voilà pour ce récit d'Étienne Monin sur franceinter.fr. Approche particulière et complémentaire, 70 ans d'Israël, racontée à travers les premiers ministres qui ont compté Golda Meir, Yitzhak Rabin, Shimon Peres, Ariel Sharon et les autres. Et puis ce 19 avril, c'est le 75e anniversaire du soulèvement du ghetto de Varsovie. Des dizaines de milliers de personnes porteront une jonquille en papier aujourd'hui, évocation de l'étoile jaune. Des jonquilles aussi parce qu'un des leaders du soulèvement à Varsovie recevait régulièrement un bouquet de jonquilles envoyé par une personne anonyme. L'histoire aussi en Europe, on aurait pu en parler avec Antoine Comte qui connaît très bien le sujet. ETA s'apprête à annoncer sa dissolution début mai. L'organisation indépendantiste basque a renoncé à la violence il y a 7 ans et concrètement déposé les armes l'année dernière. Avec Angela Merkel et l'Allemagne, Emmanuel Macron doit se sentir comme un prétendant qui tente sans cesse de séduire sa promise, mais qui ne reçoit en réponse que des roses en plastique. Voilà comment le quotidien financier Handelsblatt résume les enjeux de la rencontre Macron-Merkel à Berlin. Aujourd'hui, le président français a de grands projets pour l'Europe, projets notamment d'un budget de la zone euro pour relancer les investissements. Le problème, c'est que plus les semaines passent, moins l'Allemagne en veut. Écoutons Cyril Sauvageau, le correspondant de France Inter à Berlin. Le promis et la promise se retrouvent sur le site, sur un site en chantier, Cyril.
Une visite de chantier, celui du futur forum Humboldt, le lieu est bien choisi pour recevoir Emmanuel Macron. En effet, tout est à construire. Paris et Berlin semblent très loin d'un compromis sur la réforme de la zone euro, même si Emmanuel Macron et Angela Merkel ont promis de présenter d'ici au mois de juin une feuille de route commune. Tout le monde semble d'accord sur le diagnostic. La zone euro a besoin d'être renforcée pour mieux faire face aux crises. C'est d'ailleurs écrit noir sur blanc dans le contrat de coalition d'Angela Merkel avec les sociaux-démocrates. Mais sur le remède à appliquer, les positions restent très éloignées. Quand le président français parle budget d'investissement, la chancelière répond réforme structurelle et respect des engagements. Rien n'a vraiment changé et ce matin, même la presse économique allemande se montre étonnamment critique envers les conservateurs, arc-boutés sur leur position et qui ne voient l'Europe que comme une question d'argent. La chancelière devrait faire aujourd'hui ses propres propositions au chef de l'État français et notamment une réforme de l'Eurogroupe qui ne réunirait plus uniquement les ministres des Finances, mais aussi leurs collègues de l'économie. Berlin, Cyril Sauvageau, France Inter.
À propos de l'Europe, ces chiffres donnés aujourd'hui par l'agence Eurostat à propos de l'asile, les États membres de l'Union européenne ont accordé l'asile à 538 000 réfugiés l'année dernière. C'est un quart de moins qu'en 2016. 538 000 réfugiés. Plus de 60% des demandeurs ont obtenu gain de cause en Allemagne. Première nationalité représentée, les Syriens, puis les Afghans et les Irakiens. Et après l'Allemagne, le deuxième pays qui accueille, c'est la France. En Syrie, justement, les frappes occidentales le week-end dernier ont-elles vraiment nui à l'arsenal chimique de Bachar el-Assad? Sans doute en partie, mais en partie seulement. Selon des experts américains repris par l'agence de presse Reuters, l'impact des frappes sur les capacités chimiques du régime syrien a été limité. En France, une expertise médicale, l'expertise d'un vêtement aussi, et la défense de Tariq Ramadan est sans doute un peu plus compliquée désormais. Le prédicateur est mis en examen pour viol et incarcéré depuis début février. Bonjour Sarah Guibaudot.
Bonjour.
L'expertise médicale, vous nous en donniez les détails dès ce matin sur France Inter. Oui, Tariq Ramadan est malade, il souffre de sclérose en plaques, mais oui aussi, il peut rester en détention, même si son état de santé exige une prise en charge lourde, Sarah.
Oui, Tariq Ramadan souffre bien de sclérose en plaques depuis 2006. Il peut marcher, mais présente des troubles comme des fourmillements et douleurs dans les membres, des symptômes qui se sont aggravés depuis son incarcération, ce qui peut être lié au stress. Il peut rester en prison à condition de poursuivre sa prise en charge médicale. Elle est importante, avec par exemple 4 séances de kiné par semaine. Les médecins notent que la sclérose en plaques et les traitements médicaux ne sont pas de nature à engendrer des troubles de la libido. Mais cette expertise médicale a été l'occasion pour Tariq Ramadan de signaler qu'il avait des troubles de l'érection. Les médecins experts notent que ce dysfonctionnement est difficile à dater et qu'il n'était pas mentionné jusqu'à récemment dans son dossier médical. Une autre expertise est désormais très attendue. Le théologien fait face à 3 plaintes pour viol en France et la dernière plaignante a apporté une robe qu'elle avait conservée et où pourraient se trouver, selon elle, des taches de sperme. De quoi mettre à mal la défense de Tariq Ramadan qui, jusqu'ici, n'a même pas reconnu de relations sexuelles avec ses accusatrices.
Merci Sarah Guibaudot. Reste à charge zéro pour l'optique et les lunettes en particulier. C'est une promesse d'Emmanuel Macron pendant la campagne électorale. Elle est en passe d'être tenue, assure la ministre de la Santé Agnès Buzyn, qui précise qu'on se dirige vers un remboursement de lunettes tous les 2 ans. Ah, c'est une journée parfaite pour un tennis en extérieur, sur terre battue, au bord de la mer. Bonjour Fabrice Abgral.
Bonjour.
Vous avez vu, je l'ai joué très mousquetaire. Hein. Tournoi de Monte-Carlo, vous êtes à Monte-Carlo, Vénard. Premier grand rendez-vous sur terre battue de la saison, Fabrice. Alors on ne peut pas dire que les Français brillent, hein. En fait il n'y en a plus qu'un. C'est Richard Gasquet qui joue aujourd'hui en huitième de finale face à l'Allemand Micha Zverev. Gasquet en quête de sa 500e victoire en carrière. Fabrice, ça n'est pas une mince performance, hein.
Non, 500 victoires, c'est une barre symbolique évidemment et d'autant plus magnifique que s'il parvient à s'imposer aujourd'hui, Richard Gasquet aura en quelque sorte bouclé la boucle. Car c'est ici, à Monte-Carlo, sur le rocher, que tout a commencé pour le Biterrois. C'est là, à Monte-Carlo, que Richard Gasquet a disputé non seulement son premier tournoi sur le grand circuit professionnel, mais c'est là aussi qu'il a signé sa première victoire. Et ce double événement s'est produit la même année. C'était en 2002. À l'époque, Richard Gasquet n'avait que 15 ans. Et 10 mois. C'était un gamin, surnommé à l'époque, vous en souvenez peut-être, le petit Mozart du tennis. Au premier tour, Gasquet, contre toute attente, avait battu l'Argentin Franco Schiavelli, 54e mondial à l'époque, alors que Gasquet n'était que 589e. Schiavelli n'était même pas venu en conférence de presse après le match. Il avait fui le club, honteux et vexé qu'il était d'avoir été battu par un gamin qui, au deuxième tour, toutefois, s'était incliné face à Marat Safin. Mais la carrière de Gasquet était lancée. 16 ans après, il est toujours là, il y a bientôt 32 ans. Et le voilà sur le point de devenir le 45e joueur de l'histoire à franchir la barre des 500 victoires, le 8e en activité. Il rejoindrait notamment Federer, Nadal, Djokovic ou encore Andy Murray, plutôt bien entouré. Espérons simplement qu'il gagne aujourd'hui.
Voilà, c'est ça le point. Il fait beau évidemment à Monte-Carlo, Fabrice.
Merveilleusement beau, je vous remercie.
Bon, bonne journée à vous. Il fait beau aussi dans le ciel de France Inter. Bonjour Laurence Bloch.
Oui, il fait beau dans le studio de France Inter, j'allais le dire. Oui, bonjour Bruno.
Tête de série numéro 1 à France Inter, vous êtes la patronne. Vous venez nous voir en fait pratiquement tous les trimestres.
Ah, si parce vous m'invitez que... plus, je suis prête.
Bah, très bien, vous venez quand vous voulez, mais tous les trimestres parce que c'est là qu'il y a les sondages d'audience. Et à chaque fois, ces 7 derniers sondages, ils ont été très très bons. Plus de 6 millions d'auditeurs pour France Inter.
Absolument, c'est le deuxième meilleur score historique pour la chaîne, c'est-à-dire qu'on reste toujours au-dessus des 6 millions. Oui. C'est vrai qu'on est toujours à plus de 11% d'audience, 11,3. Voilà. Et vraiment, ça me fait plaisir parce que ça veut dire que les programmes, la chaîne qu'on a construite, c'est quelque chose de cohérent, c'est quelque chose de logique. C'est une chaîne qui tient ses promesses et que les auditeurs lui restent fidèles. Vous savez que c'est absolument historique que France Inter soit au-dessus des 11 points. L'étiage moyen, c'était 10,5. Et en plus, on nous avait dit l'année dernière, oui, mais vous êtes porté par les élections présidentielles. Après, vous allez voir, vous allez revenir à des scores bien moins bons. Tout faux.
6 137 000 auditeurs. France Inter, leader sur tous les carrefours d'infos.
Par audience formidable, 11,5.
Voilà, à 13h, tiens, je le dis, à 13h, 1 250 000 auditeurs. Et un rendez-vous très important en radio, on le sait tous, c'est le matin. Eh bien, la matinale de France Inter n'en déplaise à certains communicants. La matinale de France Inter est leader, Laurence.
Absolument, elle rassemble tous les matins 3 387 000 personnes. Alors effectivement, moi je pense qu'en termes de médiamétrie, comme pour toute autre chose, une chaîne de radio se doit de travailler l'information et pas la communication. Ouais. Donc, le 7-9, la matinale de France Inter sur tous les indicateurs, le quart d'heure moyen, l'audience cumulée et la part d'audience reste la première matinale de France.
On dit ça parce qu'RTL, qu'on aime bien, calcule sur 7-9-30 et c'est pas très loyal.
Je pense qu'on a tous intérêt à travailler toujours sur les mêmes indicateurs. Parce que après, c'est vrai que les auditeurs nous en veulent et ils nous disent, vous travaillez un jour sur une vague, vous travaillez un jour sur un an, vous travaillez sur un 7-9, sur un 7-9-30. La matinale, la tranche royale.
Voilà, l'essentiel de l'audience.
J'ai un chat d'émotion. C'est le 7-9 et bravo à toute l'équipe. Léa Salamé, Nicolas Demorand en tête et Marc Fauvel qui est...
L'homme du 8h.
Le plus écouté du monde, quasiment.
On s'arrête là parce qu'emporté par votre enthousiasme, vous allez faire sauter la pendule. Le palmarès, RTL en tête, France Inter, deuxième, Énergie, France Info, France Bleu, puis Europe 1. Merci Laurence Bloch. Vous
l'instant
revenez quand
M
vous
au-dessus du million.
Absolument, la bise à Sonia De Villers.
La météo avec Switch Assure, comparateur d'assurance emprunteur 100% en ligne. Comparer, switcher, c'est gagné. Rendez-vous sur switchassure.fr.
Et la bise à Elodie Cala car elle a de très bonnes nouvelles.
Les températures restent estivales, souvent 8 à 12 degrés au-dessus des moyennes de saison. Comptez 20 degrés à Dinard, 23 à Cannes, 26 degrés à Rouen, Montauban, Nîmes, 27 à Lille, Mulhouse et à Tours, 28 degrés à Limoges, au Cap-Ferré, à Valence, 29 à Grenoble. Tout ça sous le soleil, évidemment. À peine quelques nuages sur le nord de la Bretagne, quelques-uns aussi sur le relief du sud, avec peut-être une ondée sur l'ouest des Pyrénées. Attention toujours au risque d'avalanche sur les Alpes, sur les Pyrénées. Le vent est moins marqué aujourd'hui. aujourd'hui. Le vent d'autan souffle jusqu'à 50 à 70 km à l'heure. Et puis on termine avec une bonne nouvelle. Vous pourrez encore profiter de l'été demain, mais aussi ce week-end.